On est aujourd'hui le mercredi 5 Nissan, on est le 21 mars. Le cours sera aujourd'hui pour la Refoua Chelema d'Abraham Ben Sultana. On termine notre cycle, notre semaine, et c'est aussi le dernier cours du matin jusqu'après Pessah. Les cours reprendront immédiatement après Pessah. Les cours reprendront le dimanche 8 avril. Je répète, les cours reprendront le dimanche 8 avril, le 23 Nissan. Quoi qu'il en soit, on va donc résumer ce qui a été expliqué tout au long de la semaine, et plus particulièrement hier. Et on va continuer, on va terminer. Et il y aura bien sûr encore d'autres cours qui vont être mis sur le site. Le cours de chez les K1 de cette semaine n'est pas encore sur le site. Et il y aura encore un cours chez les K1 la semaine prochaine. Donc il y aura encore deux cours à entendre d'ici la fête de Pessah. En tous les cas, quoi qu'il en soit, je tenais aussi à dire et à redire, car c'est très très important. Même lorsque j'arrête les cours, malgré tout, je n'arrête jamais complètement mon travail. En particulier, comme je l'ai dit hier, j'ai aussi un Facebook qui est au nom du site du Rav Dinovitch, un Facebook avec des milliers d'adhérents, et il s'y passe énormément de choses là-bas. J'investis énormément de travail sur mon Facebook, il y a régulièrement de nouveaux textes qui sont donc écrits et exposés là-bas. Et vous pouvez aussi bien évidemment écrire vos commentaires, vous pouvez aussi m'adresser vos questions, et c'est l'une de mes activités peut-être les plus importantes aujourd'hui, pas autant que le site, mais presque autant. J'investis énormément de temps sur le Facebook Sidur Rabinovitch, sur le Facebook aussi d'Ebne Adam, Centre Adamique Mondial de Jérusalem, et donc c'est un moyen de continuer à être en contact avec moi, autrement que simplement en écoutant. Vous pouvez lire des textes, vous pouvez les imprimer, vous pouvez les avoir chez vous. Et ce sont des textes qui ne sont diffusés que là-bas sur le Facebook du Sidur Rabinovitch. Donc ça vaut véritablement la peine d'aller faire un tour là-bas, de vous inscrire. D'autant plus que, encore une fois, même quand je ne donne pas de cours, par exemple la semaine dernière, je crois qu'il n'y avait pas cours, mais j'ai envoyé au moins deux ou trois textes sur mon Facebook. Donc c'est dommage de passer à côté. Inscrivez-vous, ça vaut véritablement la peine. Comme je dis toujours, c'est sûr que la technologie nous agresse aujourd'hui. On est noyé sous le tsunami de toutes ces nouveautés technologiques qui nous prennent énormément de temps. Mais d'un autre côté, comme je cesse de l'enseigner, lorsque l'on sait utiliser le mal pour le bien, alors le bien, qui est la transformation du mal, est encore plus grand. Le bien est plus grand encore que le bien qui est bien dès le départ. Et c'est exactement ce qui se passe avec Internet et tous ces moyens que la technologie met à notre disposition. C'est vrai que pour la majorité, malheureusement, des hommes et des femmes sur Terre, l'utilisation est extrêmement négative. Mais pour ceux qui savent l'utiliser d'une manière positive, je pense que jamais dans l'histoire humaine, on a pu faire autant de bien que l'on peut en faire aujourd'hui dans le monde entier, grâce justement à cette technologie qui en soi est peut-être mauvaise, mais bien utilisée, elle devient non seulement l'instrument le plus extraordinaire de notre génération, mais à mon sens, et je le dis sans la moindre hésitation, c'est véritablement l'instrument de la délivrance finale. Car comment voulez-vous que les enseignements de la Torah et d'une certaine manière la vérité puissent être transmises dans le monde entier autrement que par l'utilisation de la technologie. Donc encore une fois, je vous lance cet appel, allez sur le Facebook, comme ça on ne sera pas déconnecté, et vous pouvez aussi vous exprimer, vous pouvez donner vos commentaires, vous pouvez m'adresser des questions auxquelles je réponds, et ça vaut véritablement la peine. Quoi qu'il en soit, donc un résumé de ce qui a été dit hier. On a décodé des notions extrêmement importantes qui, dans le décodage, nous font rentrer dans le monde secret et mystérieux des secrets de la Kabbalah, des secrets de la Torah d'Israël, tels que le Ari HaKadosh les explique. Et on a décodé deux termes extrêmement importants, la notion de jour et la notion de mois. Je ne vais bien sûr pas revenir sur le cours d'hier qui est extraordinaire, qu'il faut absolument écouter, réécouter et réécouter, mais très très brièvement, on a expliqué que la notion de jour fait allusion au cave, c'est-à-dire à ce fin faisceau de lumière spirituelle qui rentre et se répand à l'intérieur des mondes et de notre monde, un faisceau de lumière extrêmement limité. C'est la raison pour laquelle au départ l'homme a été créé le sixième jour, parce que la lettre qui correspond au chiffre 6 en hébreu est le Vav, qui a une forme linéaire et qui fait allusion à cette lumière contractée qui, dans un premier temps, était la seule lumière qui éclairait Adam, donc une lumière spirituelle extrêmement limitée. Mais nos maîtres révèlent que Adam n'a pas été créé qu'avec cette dimension limitée. Il a reçu aussi une autre dimension qui, elle, est complètement illimitée. Et c'est l'allusion au moi. Le moi fait allusion au or makif. On a dit cave et makif, la lumière qui entoure et qui est à l'extérieur de toutes les limites de ce monde. Elle entoure ce monde, elle est à l'extérieur des limites de ce monde. C'est une image, bien sûr, ne le prenez pas à la lettre. C'est une manière de nous dire que rien ne peut enfermer, rien ne peut limiter, rien ne peut contracter cette lumière parce qu'elle est justement au-delà de toutes les limites. Très, 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 très schématiquement, on a expliqué que la dimension matérielle, elle, n'est illuminée que par le cave, la dimension nishmatique de l'homme, son âme, est directement connectée à cette lumière makif, dont le mot de code, c'est le moi. Donc finalement, on a conclu le cours d'hier en expliquant que Adam se trouve justement être cet être équilibré qui contient deux types de connexions, deux types de forces, deux types de lumière. La lumière limitée qui a pour but de le garder dans ce monde, parce que si l'homme n'était connecté qu'à cette lumière sans limite, et bien automatiquement il deviendrait un ballon d'hélium qui voudrait toujours aspirer à s'enfuir, à se déconnecter du monde. C'est le cas de toutes les spiritualités non équilibrées qui déséquilibrent l'homme et qui finalement le détournent et le déconnectent de sa véritable mission qui est d'agir à l'intérieur de ce monde. C'est la raison pour laquelle le maître du monde ne pouvait pas nous donner que cette lumière makif, sinon on aurait tous été des illuminés. D'un autre côté, si on avait eu que la lumière du cave, alors on aurait eu une spiritualité extrêmement, extrêmement, extrêmement dimanche matin. Ça veut dire tu vas à l'église, tu te confesses et puis dans la semaine tu redeviens exactement ce que tout le monde est. Et puis, de temps en temps, tu allumes ta petite cierge pour te rappeler que le bon Dieu existe. Donc, le maître du monde ne voulait pas, bien évidemment, que l'on soit ni dans une extrême, ni dans l'autre. Il nous a dotés de ces deux forces, et c'est à nous maintenant d'être à la fois quelqu'un rempli d'une lumière sans limite, mais en même temps, quelqu'un de profondément connecté à ce monde, et c'est ça la véritable dimension adamique. Alors, on était resté sur ce point-là, et on a donc introduit le cours d'aujourd'hui. Quelle va être la différence finalement entre Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer? On a compris le point commun entre les deux parlant de la création d'Adam dans un moi, font allusion au fait que l'homme est doté aussi de forces infinies sur le plan spirituel. Mais c'est quoi cette discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua? Rabbi Eliezer disant que l'homme a été créé au mois de Tishré, et Rabbi Yoshua disant que l'homme a été créé au mois de Nissan. Donc comme c'est une notion qui est d'une profondeur inouïe, infinie, et on va bien sûr dans ce cours prendre un point, l'ombre d'une virgule d'un point, mais qui déjà sera très très important et nous transmettra un message très très important. Alors, il faut comprendre que, comme je l'ai toujours expliqué, l'expliquera encore longtemps, Bezrat Hashem, tout dans ce monde a été créé selon le principe de l'extériorité et de l'intériorité. Dans chaque chose, il y a une intériorité et une extériorité. Dans la lumière du cave, par exemple, le faisceau concentré et limité, il y a aussi l'extériorité du faisceau et l'intériorité du faisceau. Donnons un exemple très très simple. Un homme peut avoir une spiritualité extrêmement basique, c'est celle du cave. Ça veut dire que l'essentiel de sa vie n'est pas le problème spirituel. Mais d'un autre côté, dans cette spiritualité même très basique, il peut être très à l'extérieur. Ça veut dire, c'est bon, ce qu'on pourrait appeler dans notre langage à nous un juif traditionnel. Bon, ben, il mange du pain azim à Pessah, il se rend à la synagogue le jour de Kippour, sa femme allume les bougies à l'entrée du Shabbat. Bon, c'est-à-dire, bon, il y a de la tradition, mais bon, je veux dire, on va pas trop regarder dans les détails. Est-ce que vraiment la tradition va d'après la loi? Est-ce que vraiment il est précis et méticuleux dans l'observance de cette tradition? Est-ce qu'il mange du pain le soir du Seder, de la matzah le soir du Seder, mais durant la semaine, peut-être que une petite déviation vers un plat de pâtes ou un petit gâteau, c'est malheureusement très fréquent. De même, il allume les bougies du Shabbat et il fait le kiddouche, mais après il allume la télévision pour voir qu'est-ce qui se passe dans le monde. Ça, c'est le cave, mais alors dans son extériorité la plus absolue. Maintenant, on peut être à l'intériorité du cave. C'est-à-dire, on est un juif traditionnel, le judaïsme prend 10%, 15%, 20% de ma vie, et surtout pas plus, mais d'un autre côté, ce que je le fais bien. Quand je fais Shabbat, je fais Shabbat. Pessah, je fais Pessah. Kippour, je fais Kippour. Maintenant, toute ma vie, tout mon idéal, tout ce que je suis, tout mon être est ailleurs, dans mon travail, dans mes loisirs, dans tout ce que vous voulez. Mais quand je reviens au judaïsme, je le respecte. Donc, je suis dans l'intériorité du cave. Alors, exactement de la même manière, dans le makif aussi, il y a l'extériorité du makif et il y a l'intériorité du makif. Évidemment, même l'extériorité du makif est une lumière inimaginable, puisqu'on parle de l'extériorité du makif. Or, on a expliqué que le makif est un or en sof, donc on parle de quelqu'un. Lorsqu'il est connecté au makif, la différence fondamentale entre un juif connecté au makif et celui qui n'est pas connecté au makif, c'est que celui, encore une fois, qui n'est pas connecté au makif, pourra être dans l'intériorité du cave, c'est-à-dire un bon juif, mais d'un autre côté, son être, c'est pas là-bas qu'il se situe, c'est ailleurs. Par contre, celui qui est connecté au makif, ça veut dire que toute sa vie, c'est la Torah. Ça veut dire qu'il est entièrement Torah. C'est sa vie. Quand tu lui demandes « c'est quoi ta vie ?», il répondra « c'est servir Hachem ». Maintenant, parallèlement à ça, il travaille aussi, il a aussi une famille, il a aussi des milliers d'activités. Mais je parle sur le plan qualitatif, s'il doit définir sa vie, où est-il dans le service d'Hachem? C'est là où il est, ça c'est le makif. Maintenant, on parle donc de quelqu'un qui est déjà extrêmement, extrêmement engagé. Mais d'un autre côté, même dans cet engagement, il peut y avoir l'extériorité du makif et l'intériorité du makif. Et là, je vais expliquer. Je dis encore une fois que je vais expliquer d'une manière, parmi des milliards et des milliards d'infinies autres manières. Mais c'est celle que j'ai choisie. Si quelqu'un, ou plutôt on va dire comme ça, lorsque c'est seulement l'extériorité du makif qui se dévoile, automatiquement, ça ne touche que des individus. Des individus d'une grandeur spirituelle et morale inimaginable. Mais ça reste des individus. Parce que la lumière, ou plutôt l'extériorité du makif, ne peut toucher que des êtres qui, au départ, sont des êtres, on pourrait dire, extrêmement sensibles et extrêmement préparés à cette connexion. Mais le peuple, parmi lequel se trouvent aussi des gens très simples, très moyens et parfois très petits, le peuple, lui, ne peut pas être touché par l'extériorité du makif. Par contre, lorsque l'intériorité du makif se dévoile, à ce moment-là, la lumière est tellement puissante, c'est comme ça que j'explique pour l'instant, je vais affiner par la suite, la lumière est tellement puissante que tout le monde est touché. Tout le peuple juif peut être touché. Et si c'est l'intériorité de l'intériorité, car même dans l'intériorité, il y a l'extériorité de l'intériorité et l'intériorité de l'intériorité, vous comprenez bien ce que je dis, puisque le principe se répète à l'infini. Même dans l'intériorité, il y a l'extériorité de l'intériorité et l'intériorité de l'intériorité. Lorsque l'intériorité de l'intériorité se révèle, même les nations sont touchées. Ça veut dire que plus personne reste à l'extérieur. Tout le monde rentre dans le grand cercle, tout le monde rentre dans cette lumière Makif et tout le monde se connecte au maître du monde. Il y a donc, comme je viens d'expliquer, trois niveaux dans le dévoilement de la lumière Makif, et c'est vrai partout ailleurs, mais là on parle du Makif. Quand c'est seulement l'extériorité du Makif qui se dévoile, ne seront touchés dans chaque génération que ceux qu'on appelle les tzadikim, les justes, les grands leaders spirituels du peuple juif et du monde en général, lorsqu'il s'agit chez les nations de ceux qu'on appelle chassidomot haolam, les grands chassidim, les grands modèles de spiritualité et de moralité authentique même chez les nations. Et donc, lorsque l'extériorité, encore une fois, du Makif se dévoile, ça va toucher des hommes qui, dans leur nature, dès déjà la conception dans le ventre de leur mère, étaient prédisposés à devenir. Comme on le voit clairement dans les prophètes, le prophète Jérémie dit clairement que déjà dans le ventre de sa mère, c'est Jérémie ou Ésaïe, je ne me souviens plus, peu importe, en tout cas c'est dit sur plusieurs prophètes, déjà dans le ventre de sa mère, de ta mère, dit Dieu, je t'ai conçu pour devenir le prophète de mon peuple, le prophète des nations. Déjà dans le ventre de ta mère, Yetzartira, je t'ai conçu pour devenir ce que tu vas devenir. On nous dit sur Moshe Rabbeinu que le moment où il est né, la maison s'est remplie de lumière. Ça veut dire que déjà enfant, il était déjà prédisposé, pas enfant, nourrisson qui vient de naître, il était déjà prédisposé à être la lumière du monde. Et c'est évident que les grands, 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 comme le Baal Shem Tov, comme Rashi, comme le roi David, comme tout celui que vous voulez, c'est évident qu'ils ne sont pas devenus ce qu'ils sont devenus comme ça un jour à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, ils se disent tiens, si je devenais un serviteur d'Hachem. Évidemment que non, c'est déjà des projets qui prennent place avant même que l'âme descende dans ce monde. Ce sont des envoyés d'Hachem qui descendent dans ce monde parce qu'ils ont une mission bien précise, parce qu'ils ont une structure spirituelle bien précise qui est très différente de celle du commun des mortels. Alors ceux-là, qui sont prédisposés à être ce qu'ils deviendront, ceux-là se connectent à l'extériorité du Makif. C'est très intéressant ce que je dis. Malgré le fait que ce sont des personnages immenses, ils ne sont connectés qu'à l'extériorité du Makif. Pourquoi ? Parce que tant qu'il ne s'agit que d'une connexion d'individus, tant que l'ensemble du monde reste à l'extérieur et n'est pas encore concerné, c'est la preuve que la lumière qui brille dans le monde n'est pas encore l'essence même, l'intériorité de la lumière. Parce que si c'était l'essence qui se dévoilait, à ce moment-là, elle se propagerait partout et tout le monde serait touché. Et donc, il y a un dévoilement de l'extériorité du Makif qui permet que dans chaque génération, il y ait de grands maîtres qui finalement sont les guides de la génération. Mais ils permettent à la génération d'avoir un modèle, d'avoir une direction, mais ce n'est pas toute la génération qui devient comme eux, bien évidemment. L'époque des prophètes, l'époque de tous les grands leaders spirituels, comme la Bible le raconte, comme on le voit jusqu'à aujourd'hui. Par contre, deuxième étape, l'intériorité du Makif se dévoile. À ce moment-là, c'est un type de lumière qui est extrêmement, extrêmement puissant, une force inimaginable qui va pouvoir atteindre et connecter même quelqu'un qui n'a aucune préparation particulière, spéciale, qui n'est pas forcément doté de sensibilité spirituelle et morale, même lui va être atteint. Ça, c'est l'intériorité du Makif. Mais, dans un premier temps, lorsque se dévoile l'intériorité du Makif, à ce moment-là, ne peut être touchée que les âmes les plus éloignées, mais encore et uniquement à l'intérieur du peuple juif, ou aussi toutes les âmes perdues d'Israël éparpillées dans le monde, qui sont en vérité les convertis, qui sont des juifs au départ, des âmes perdues qui ont dégringolé et qui se sont perdues à l'intérieur du monde non-juif, mais qui finalement, lorsqu'il y a un dévoilement de cette intériorité du maquif, tout d'un coup, un jeune Français qui vit dans un bled perdu en Normandie ou en Bretagne, tout d'un coup, il va sentir un appel en lui. Il ne sait pas pourquoi. Et puis, des années après, on le retrouvera à Jérusalem, marié avec des enfants et vivant comme un juif, au point qu'on ne peut même pas imaginer qu'un jour, c'était un petit Français breton qui allait à l'église le dimanche matin. Pourquoi ? Parce que le dévoilement de l'intériorité du maquif va au-delà de toutes les limites de ce monde et peut atteindre, et va atteindre même les âmes les plus éloignées, mais à condition qu'elles aient au minimum un lien avec Israël. Maintenant, lorsque se dévoile l'intériorité de l'intériorité, à ce moment-là, toutes les nations, même les vrais non-juifs, sont touchées, et même eux reviennent et se connectent au maître du monde. En ce jour, Dieu sera un et son nom sera un. Il sera roi sur toute la terre. Même les âmes qui n'ont absolument aucun lien avec Israël, qui sont de véritables non-juifs, les 70 nations, même elles reviennent, se connectent et rentrent dans l'identité adamique et se reconstruisent l'humanisme, bien sûr, la délivrance. Alors, si je devais donner des exemples dans l'histoire pour habiller ces trois étapes-là, je dirais que la première étape où se dévoile uniquement l'extériorité du maquif, ben c'est toute la période de l'exil. Quand je dis exil, pas seulement l'exil géographique lorsque l'on n'est plus sur notre terre, mais toute la période de l'exil, l'exil avec un grand E, c'est-à-dire toute l'histoire jusqu'à la délivrance finale, depuis la sortie d'Égypte jusqu'à plus ou moins, jusqu'à un petit peu avant nos jours. Toute la période de l'exil, il y a dans l'exil des moments aussi extrêmement élevés, comme à l'époque de la construction des temples. Mais c'est encore l'exil, dans la mesure où les temples vont être détruits, dans la mesure où l'obscurité va reprendre le dessus, dans la mesure où on va être véritablement en exil, après la destruction des temples. Et donc, pardon, c'est comme en hiver, il y a des jours où il fait un peu plus chaud, d'autres jours où le froid est insupportable, et même les jours où il fait un petit peu plus chaud, c'est l'hiver quand même, on n'est pas encore en été. Donc, l'exil, d'après les maîtres des secrets de la Torah, c'est finalement toute l'histoire humaine depuis la faute de Adam jusqu'à la vue du Mashiach. Donc pendant toute cette période-là, on est essentiellement éclairé par l'extériorité du maquif, et c'est la raison pour laquelle on sera pratiquement exclusivement guidé par des maîtres qui, eux, sont d'un niveau extraordinaire, mais qui ne peuvent que servir d'étoile du nord qui guide le marin pour ne pas qu'il perde le cap. Mais d'un autre côté, cette étoile, on ne peut pas l'atteindre, elle nous permet uniquement de ne pas chavirer, de ne pas se perdre, de ne pas sombrer. Mais quoi qu'il en soit, le bateau reste dans une mer déchaînée et il est en danger constamment. Ça, c'est toute la période de l'exil. Avant la délivrance finale, et c'est la période dans laquelle nous sommes rentrés, dans les quelques décennies avant la délivrance finale, commence à se dévoiler l'intériorité du maquif. Et c'est la raison pour laquelle jamais dans notre histoire, on a vu autant de non-juifs, entre parenthèses, car ils ne le sont pas, de non-juifs se convertir. Jamais on a assisté à un tsunami de conversion aussi important que dans nos générations. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans une période où l'intériorité du maquif se dévoile et automatiquement toutes les âmes perdues se réveillent. Et il y a un retour énorme. Et on peut rajouter qu'on a commencé à rentrer aussi dans la dernière période qui est le dévoilement de l'intériorité du maquif. Et c'est la raison pour laquelle on assiste en même temps, et peut-être un phénomène qui devient de plus en plus puissant et qui va complètement même dépasser le phénomène de la conversion, c'est le phénomène du retour des adamiques. Ça veut dire que tous ces non-juifs partout dans le monde qui n'ont absolument aucune intention de se convertir et qui ont d'ailleurs bien raison de ne pas vouloir se convertir, parce qu'il n'y a aucune raison qu'un non-juif se convertisse, mais par contre va leur redevenir des Bnei Adam, et c'est le phénomène fabuleux auquel nous assistons ces dernières années, où des milliers et des milliers et des milliers de non-juifs découvrent la Torah, découvrent le peuple juif, et se rendent compte, après des millénaires d'ignorance, à quel point ils étaient déconnectés de leur propre source, de leur propre identité. Et ça, ça provient d'un dévoilement de l'intériorité du Makif. Voilà comment on a résumé toute l'histoire grâce à cela. Alors maintenant, on va comprendre la discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. Le mois de Tishré fait allusion au dévoilement de l'extériorité du Makif. Le mois du Nissan fait allusion au dévoilement de l'intériorité du Makif. Et la délivrance finale fait allusion à l'intériorité de l'intériorité du Makif. Je répète, le mois de Tishré fait allusion au dévoilement de l'extériorité du Makif. Le mois de Nissan fait allusion au dévoilement de l'intériorité du Makif. Et la délivrance finale fait allusion au dévoilement de l'intériorité du Makif. Et maintenant, donc, on comprend la fameuse discussion qui n'en est pas une du tout, car chacun parle d'autre chose et tous les avis se complètent. La fameuse discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. Rabbi Eliezer dit, l'homme a été créé au mois de Tishré et la délivrance finale viendra au mois de Tishré. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Rabbi Eliezer met essentiellement l'accent sur l'importance des grands leaders spirituels qui ont guidé le peuple juif et le monde d'une certaine manière durant toute l'histoire et par le mérite desquels on arrive jusqu'au port de la délivrance. Rabbi Eliezer rend hommage à ceux sans lesquels le monde n'aurait pas pu traverser l'obscurité et l'horreur de l'histoire. Tous ces justes qui, dans chaque génération, ont porté sur leurs épaules le fardeau de la responsabilité de sauver le monde. Et c'est pour ça que Rabbi Eliezer parle d'eux. Il dit « L'homme a été créé au mois de Tishré », ça veut dire que jusqu'à la délivrance finale, l'homme essentiel, c'est le juste. Parce que sans les justes, même s'ils ne sont que des individus, même s'ils ne représentent pas la majorité, sans les justes, le monde ne pourra pas traverser l'histoire. Et la délivrance se fera au mois de Tishré, là aussi. Rabbi Eliezer veut dire qu'au moment de la délivrance, on se rendra compte de tout ce que l'on doit à tous ces grands qui ont traversé, ont fait traverser au peuple juif l'horreur de l'histoire, l'horreur de l'exil, mais qui étaient là pour nous soutenir, pour nous renforcer, pour nous enseigner, pour nous permettre de nous accrocher de toutes nos forces. Lorsque le Mashiach viendra, le peuple juif et le monde entier tournera sa tête vers tous les grands et leur dira, sachez que même si vous n'étiez pas le Mashiach, sans vous, jamais le Mashiach n'aurait pu venir. Et on doit vous remercier, on vous doit un hommage. C'est vous qui avez permis la réalisation de cette délivrance finale. Donc encore une fois, Rabbi Eliezer met en accent essentiellement le travail des grands. Et met en évidence encore une fois que l'important n'est pas celui qui va terminer le travail. Mais chacun qui a participé à sa réalisation a une part aussi grande que celui qui termine. Quand Rabbi Eliezer dit que le Mashiach viendra, la délivrance viendra au mois de Tishri, il veut nous dire que le Mashiach lui-même reconnaîtra qu'il n'est pas plus grand que tous les grands qui l'ont précédé. Parce que sans ces grands-là, lui-même n'aurait jamais pu venir. Et c'est la raison pour laquelle Rabbi Eliezer dit « Le Mashiach viendra au mois de Tishré » comme pour nous dire que le Mashiach lui-même refusera que tous les honneurs lui reviennent. Il demandera à l'ensemble de l'humanité de remercier tous ceux qui depuis des millénaires ont été ses leaders spirituels et moraux sans lesquels nous n'aurions pas pu atteindre les temps de la délivrance. Voilà ce que dit Rabbi Eliezer. Rabbi Yehoshua dit « L'homme a été créé au mois de Nissan, et la délivrance se fera au mois de Nissan. » Il complète ce que dit Rabbi Eliezer, il ne contredit pas ce que dit Rabbi Eliezer, il complète ce que dit Rabbi Eliezer. Il dit la chose suivante, « Oui, c'est vrai que nous devons tout au grand, à ces justes qui seuls avançaient en première ligne dans l'obscurité de ce monde, ce que tout le monde poursuivait, ce que tout le monde critiquait, Parce que justement, ils étaient en première ligne et osaient être et osaient faire ce que personne n'osait être et ce que personne n'osait faire. Mais d'un autre côté, dit Rabbi Yoshua, forcément la délivrance se fera au mois de Nissan, car la délivrance ne concernera pas uniquement les grands, mais concernera les peuples, concernera tous les hommes, toutes les femmes, même ceux qui sont à un niveau spirituel et moral extrêmement bas par rapport aux grands. Et pour ça, doit se dévoiler une lumière beaucoup plus puissante que l'extériorité du Makif. Doit se dévoiler l'intériorité du Makif, représentée, symbolisée par le mois de Nissan. C'est pour ça que Rabbi Yoshua dit « l'homme a été créé au mois de Nissan ». C'est-à-dire que le but final est de ramener même les hommes les plus éloignés, ceux qui ne peuvent revenir que grâce au dévoilement de l'intériorité du Makif, représenté par le mois de Nissan. Et c'est la raison pour laquelle Rabbi Yoshua dit que la délivrance se fera au mois de Nissan, parce qu'au moment de la délivrance, pas seulement les juifs les plus éloignés, pas seulement les âmes perdues des convertis, mais même tous les non-juifs reviendront et se connecteront. Parce que l'intériorité de l'intériorité arrivera à reconnecter tout le monde, absolument tout le monde. Tous ceux qui en tous les cas font partie de l'identité adamique. Tous seront reconnectés à ce moment-là. Voilà donc le grand secret de cette discussion. Voilà ce qui se cachait derrière une discussion qui, comme je vous l'ai montré, n'en est pas une, parce que finalement chacun parle d'un autre niveau. Alors maintenant, je voudrais juste conclure en donnant un habit, une expression plus concrète de ce qu'on a expliqué. Concrètement, c'est quoi le dévoilement du Makif, son extériorité, son intériorité et l'intériorité de l'intériorité? Alors le Makif, au niveau de la Torah, c'est tout simplement l'étude profonde des secrets de la Torah et ses dévoilements, bien évidemment. Le Kav fait allusion à l'aspect de la loi. Quand tu étudies la loi, qui est extrêmement importante, incontournable, on ne peut pas commencer à se connecter à Dieu sans se soumettre à sa loi. Mais ça, ce n'est encore que le cave. Incontournable, mais malgré tout, qui n'est que cave. Mais si on veut se connecter à cette lumière infinie, on doit se connecter au sod, on doit se connecter au secret de la Torah, à l'intériorité de la Torah. C'est la raison pour laquelle cet aspect s'appelle l'intériorité de la Torah. Ça veut dire que c'est quelque chose qui contient une lumière infinie. Maintenant, dans l'intériorité de la Torah, il y a deux niveaux, et même trois niveaux. Il y a l'extériorité des secrets de la Torah, il y a l'intériorité des secrets de la Torah, et il y a l'intériorité de l'intériorité. Très globalement, ça correspond à trois périodes fondamentales. C'est que, il y a 2000 ans, au moment où l'exil d'Édom, le dernier exil d'Israël, celui qui, malgré lui, se transformera en matrice de la délivrance, au moment où l'exil commence, tout de suite après la destruction du deuxième temple, apparaît dans le monde Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, à ce moment-là, commence à dévoiler l'extériorité du Makif par l'intermédiaire du Zohar. Pourquoi je parle de l'extériorité du Makif? Parce qu'à l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai, il est seul. Lui et ses élèves sont à peine un minyan, ils sont à peine 10. Encore avant sa propre mort, il perdra 3 de ses élèves et il n'était plus que 7. C'est-à-dire qu'ils n'avaient même pas un minyan pour pouvoir prier ensemble. Un jour, Rabbi Shimon Bar Yochai viendra chez son maître, Rabbi Akiva, en pleurant et il lui dira: mais comment est-il possible? Je dévoile une telle lumière et je n'ai que 9 élèves. Comment se fait-il que le monde entier ne vient pas écouter cette Torah? Et Rabbi Akiva lui a dit: sache que le temps n'est pas encore arrivé. Pour l'instant, ça te suffit que ton Créateur et moi-même, ton Maître, sachons qui tu es. Mais ça prendra encore du temps jusqu'à ce que ta lumière commence à se dévoiler dans le monde. Parce qu'à cette époque-là, on était à l'époque du Zohar, on n'était qu'au niveau de l'extériorité du Makif. Après est venu le Ari HaKadosh, des siècles après. Et le Ari HaKadosh a commencé à dévoiler l'intériorité du Makif. Et les secrets de la Torah ont commencé à se répandre beaucoup plus loin. Et de plus en plus de Juifs ont commencé à être sensibilisés par les secrets de la Torah. Et enfin, la dernière étape, qui est l'intériorité de l'intériorité, c'est à partir du Baal Shem Tov et tous les maîtres de la chassidoute, c'est le dévoilement de la chassidoute. La chassidoute dévoile l'intériorité de l'intériorité, c'est par le dévoilement de la chassidoute que viendra finalement la délivrance finale, comme le Mashiach lui-même l'a enseigné au Baal Shem Tov, Shiafutsu Mainatecha Chutza Ka'atemar, lorsque les dévoilements des sources de la Torah, c'est-à-dire des profondeurs de la Torah, se dévoileront partout dans les endroits les plus extrêmes et les plus éloignés, à ce moment-là le Mashiach viendra. Donc on a les trois étapes, Zohar, extériorité du Makif, Kabbalah, intériorité du Makif, Chassidut, intériorité de l'intériorité du Makif. Mais quoi qu'il en soit, ce que nous devons retenir et comprendre, c'est que seulement et uniquement, grâce à des maîtres qui enseignent et qui transmettent les secrets de la Torah, uniquement grâce à eux, la délivrance sera possible. Alors quand je parle bien sûr d'enseigner, de dévoiler les secrets de la Torah, je ne parle pas forcément de le faire selon le style de la Kabbalah. Il faut au contraire, c'est-à-dire tout ce que la chassidoute nous apprend, il faut au contraire faire descendre les secrets de la Torah et les habiller dans un langage tel que même l'homme le plus éloigné, qui n'a aucun lien avec ces notions-là, peut comprendre. Et ça prouve la grandeur du maître. Parce que plus un maître est capable d'aller chercher des notions extrêmement élevées, de les faire descendre et de les transmettre dans un langage extrêmement simple, plus ça prouve que lui-même est extrêmement grand. Car rien n'est plus difficile que d'aller chercher les choses très très haut et de les faire descendre très très bas. Quelqu'un qui enseigne les secrets de la Torah dans le langage codé des secrets de la Torah, ça prouve que lui-même n'a rien compris à ce qu'il enseigne. Et c'est la raison pour laquelle il est incapable de faire descendre les choses dans ce monde. Donc finalement, il reste un technicien de la Kabbalah qui parle un langage comme le médecin à l'hôpital, je ne sais même pas s'il se comprend lui-même. Mais le fait qu'il est absolument incapable d'expliquer clairement à son patient qu'est-ce qu'il a, ça prouve que finalement lui-même n'est pas si grand et bon médecin que ça, car un grand bon médecin est capable d'expliquer même à un enfant de 6 ans les choses les plus compliquées. Et en tous les cas, dans le domaine de la Torah, c'est le test incontournable pour juger de la grandeur d'un maître. Plus ces enseignements viennent de haut et plus même un enfant de 6 ans peuvent les comprendre, plus ça prouve que c'est un maître immense. Et le contraire, quand c'est exactement le contraire. Mais quoi qu'il en soit, même si le langage doit être simple pour que tout le monde puisse comprendre, la source de l'enseignement doit provenir de notions extrêmement élevées, extrêmement hautes. Et donc on est dans cette génération. On est dans cette génération où, grâce à Dieu, merci au maître du monde, les secrets de la Torah commencent à se répandre partout dans le monde. C'est la raison pour laquelle il y a tant de conversions, c'est la raison pour laquelle il y a tant et il y aura de plus en plus de véritables non-juifs qui reviennent à la découverte de leur propre identité, de leur propre source, en se connectant au peuple juif et en se connectant à la Torah d'Israël et surtout à l'intériorité de la Torah d'Israël. Ça, ce sont des simanim, ce sont des signes comme quoi on est véritablement en pleine délivrance, on est dans un processus de délivrance. Et que le maître du monde fasse que véritablement notre génération puisse pas seulement en vivre et ressentir qu'elle est dans ce processus, mais qu'elle puisse voir aussi sa réalisation et l'aboutissement finalement de tout le travail de toutes les générations avec le dévoilement du Mashiach. Amen. En tous les cas, à tous et à toutes, je vous souhaite une très 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 bonne fête de Pessah, les juifs comme ils le feront, les non-juifs adamiques comme ils le vivront aussi. D'ailleurs, profitez du Facebook, je parle au non-adamique, pour me poser des questions à ce sujet-là. Comment, en tant que non-juif, pouvoir se connecter à cette fête-là? De toute façon, je vais en parler cette semaine encore et la semaine prochaine. Je vais faire des cours qui seront sur le site Bnei Adam, des cours adressés aux non-juifs pour voir comment les connecter d'une manière beaucoup plus concrète et plus précise à cette fête de Pessah. Mais quoi qu'il en soit, en attendant à tous et à toutes une très 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 bonne journée et à très très bientôt.